Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 24 Khordad, 1401 du calendrier iranien, 14 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran lance un projet pilote de transit entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international Nord-Sud. L'Iran ne quittera pas la table des négociations malgré la résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La Grèce lève la saisie du navire iranien. Et Damas dénonce le projet d'Ankara de créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères critique une fois de plus la résolution anti-iranienne de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA sur ses activités nucléaires. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amiradoulahian, a dit que l'Iran avait accru ses activités nucléaires dans les endroits déclarés dans la résolution de l'Agence nucléaire de l'Organisation des Nations Unies. Il a toutefois souligné que Téhéran ne quitterait pas la table des négociations et poursuivrait ses pourparlers dans le cadre du plan global d'action conjoint. La résolution de l'AIEA accuse l'Iran de ne pas avoir expliqué les traces d'uranium trouvées sur trois sites non déclarés. Amir Abdullahian a fait ses remarques lors de sa conférence de presse avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Les deux responsables ont également abordé d'autres dossiers tels que le Yémen, la Palestine et l'Afghanistan. L'Iran a publié la réponse écrite qu'il a présentée à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, le mois dernier, en réponse aux allégations sur les trois sites nucléaires non déclarés. Dans le document récemment publié, l'Iran précise que les allégations de l'AIEA sont basées sur des informations montées de toutes pièces fournies par Israël en tant que non-membre et manquent donc de crédibilité juridique. Le document a présenté des détails techniques sur les sites présumés. Il reproche également à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir ignoré les clarifications de l'Iran. Téhéran avait envoyé son document avant la réunion de mercredi dernier du Conseil des gouverneurs de l'agence viennoise. Lors de cette réunion, le Conseil des gouverneurs a approuvé une résolution accusant Téhéran de ne pas coopérer de manière adéquate et suffisante avec l'agence. Téhéran a qualifié la résolution de politisée. Lors d'une conférence de presse, lundi 13 juin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « La résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA était une décision purement politique et préconçue. Certes, nous ne pouvions pas laisser sans réponse cette action politisée et non technique et nous avons pris les mesures nécessaires. La réponse de l'Iran à la résolution a été décisive et proportionnée », a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne. L'Organisation iranienne des ports et de la navigation maritime a annoncé dans un communiqué que le gouvernement grec a levé la saisie du navire iranien. Le communiqué de l'Organisation des ports et de la navigation maritime est le suivant. Avec l'action rapide et autoritaire de la République islamique d'Iran, le suivi des organes compétents et le soutien du ministre iranien du transport et de l'urbanisme, malgré l'ordre des Américains de garder le navire et de saisir ses marchandises, le gouvernement grec a émis l'ordonnance correspondante et nous assistons maintenant à la levée de la saisie du navire et à la restitution de la cargaison à son propriétaire. Le gouvernement grec a récemment arrêté un navire battant pavillon iranien au large des côtes grecques et sa cargaison a été saisie avec la coordination du gouvernement américain, tandis que le navire s'est réfugié au large des côtes grecques pour protéger la sécurité du personnel du navire. Damas a condamné le projet de la Turquie d'établir une soi-disant zone de sécurité dans le nord de la Syrie, le qualifiant d'agression brutale. L'Assemblée du peuple syrien a fait cette remarque dans un communiqué affirmant que le plan de la Turquie vise à provoquer des changements démographiques dans la région. Damas a déclaré que les efforts de la Turquie pour occuper davantage de territoires syriens menace la paix et la sécurité régionale et internationale. Damas a souligné qu'il se réservait le droit d'utiliser tous les moyens pour contrer la présence illégitime des troupes turques ainsi que des groupes terroristes affiliés. Le mois dernier, le président turc a déclaré qu'Ankara prévoyait de créer une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km le long de sa frontière avec la Syrie, une décision que Damas a dénoncée comme un acte honteux. Les forces pro-russes affirment que les bombardements ukrainiens à Donetsk ont tué 5 personnes, dont un enfant. Selon les autorités locales et les médias russes, les frappes ukrainiennes ont visé un marché et un hôpital. 22 autres personnes ont également été blessées. De violents combats font rage dans la région orientale du Donbass. Les forces russes tentaient mardi d'encercler les soldats ukrainiens à Severodonetsk, ville stratégique de l'est de l'Ukraine, mais les forces de Kiev affirmaient tenir bon au 111e jour de la guerre. Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes modernes aux Occidentaux, évoquant le coût humain terrifiant de la bataille de Severodonetsk. Il est convaincu que ses troupes pourront récupérer le territoire perdu si les alliés occidentaux accélèrent leur livraison d'armes. Entre-temps, l'armée russe a déclaré avoir détruit lundi une importante cache d'armes américaine et européenne à Donetsk. Depuis des semaines, les belligérants se livrent une bataille pour le contrôle de Severodonetsk. La prise de la ville ouvrirait la voie à Moscou pour conquérir pleinement la région du Donbass, principalement pro-russe. Outre le Donbass, des combats font aussi rage dans le sud de l'Ukraine. Dans la nuit de lundi à mardi, le commandement sud des troupes ukrainiennes a signalé des combats aériens et attaques d'hélicoptères russes sur les positions ukrainiennes à Kherson et Mykolaïv. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter le commentaire politique d'aujourd'hui. La République islamique d'Iran lance un projet pilote de transit entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international nord-sud. L'Organisation iranienne de la navigation maritime a accueilli un transit pilote de fret entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international qui traverse le territoire iranien. Un responsable iranien basé à Astrakhan, en Russie, a déclaré lundi 13 juin que la cargaison contenant deux conteneurs de 40 pieds de produits en bois avait commencé son voyage depuis Saint-Pétersbourg, dans le nord de la Russie, et serait déchargée au port indien de Navacheva via le territoire de la République islamique d'Iran en moins de 25 jours. Dariush Jamali, qui dirige une installation portuaire irano-russe à Astrakhan, sur le littoral nord de la mer Caspienne, a déclaré que la cargaison russe traversera le corridor de transit international nord-sud et arrivera dans le port iranien d'Anzali sur le littoral sud de la mer Caspienne. La cargaison poursuivra son chemin par la voie terrestre en traversant le territoire de la République islamique d'Iran du nord au sud pour arriver au port iranien de Bandar Abbas au détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et la mer d'Oman. Ensuite, elle poursuivra sa route par la voie maritime vers Navacheva en Inde. M. Dariush Jamali a déclaré que c'était la première fois qu'une cargaison voyageait entre la Russie et l'Inde, traversant le territoire de la République islamique d'Iran et le corridor de transport international nord-sud avec un seul document de connaissance directe, TBL, qui permet le transport de marchandises à la fois à l'intérieur des frontières nationales et par expédition internationale. Il a déclaré que le bureau régional de l'Organisation iranienne de la navigation maritime en Russie et ses filiales en Inde ont accueilli le transit pilote de ces marchandises pour la première fois via le corridor de transport international nord-sud et le territoire de la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran espère pouvoir bénéficier des droits de transit d'un commerce croissant entre la Russie et l'Inde qui a été causé par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales qui ont suivi contre Moscou. Les responsables iraniens affirment que le transport intégré de marchandises de la Russie et de la Biélorussie vers l'Inde développera les expéditions via le corridor de transport international nord-sud et augmentera les revenus de transit de la République islamique d'Iran. Les experts affirment que l'achèvement de deux liaisons ferroviaires manquantes le long de l'itinéraire du corridor de transport international nord-sud sur le territoire de la République islamique d'Iran augmentera considérablement le transit à travers ce corridor au cours des prochaines années.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition du débat de jour. Face aux agissements anti-iraniens de l'AIEA, la République islamique d'Iran riposte. En effet, c'était le lundi 6 juin lors d'un tweet que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avait déclaré que si les pays à l'origine de la résolution anti-iranienne continuaient d'adopter une approche basée sur des menaces, c'est elles qui seront à blâmer pour les conséquences de cette approche. Mais avant ce tweet, Hossein Amir Abdollahian s'était entretenu au téléphone avec Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et avait insisté sur le fait que toute démarche politique des États-Unis et des trois pays européens rencontrerait sans aucun doute une réponse imminente, efficace et appropriée de l'Iran. Mais décidément, l'Union européenne, la partie occidentale, a décidé une fois de plus de faire preuve de mauvaise foi, puisque la résolution anti-iranienne a été adoptée mercredi soir avec 30 votes pour, 2 contre et 3 abstentions. En réponse, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé son intention d'éteindre un certain nombre de caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran. En effet, au cours des dernières années, l'Iran a toujours fait preuve de bonne foi dans cette affaire et a rempli ses obligations et ses engagements, d'où effectivement l'achèvement d'une grande partie des missions et des inspections de l'Agence en Iran. Mais l'approbation de cette résolution anti-iranienne, qui a été basée sur un rapport hâtif et déséquilibré du directeur de l'agence, mais aussi basée sur des informations fausses et mensongères fournies par le renseignement israélien, pourrait bien sûr affecter le cours des coopérations et des négociations entre l'Iran et l'agence. Mais quelles en seront les conséquences à long terme de cette décision de l'Agence internationale de l'énergie atomique contre l'Iran ? Réponse dans quelques instants avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé sa décision d'éteindre un certain nombre de caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, dont le fonctionnement est jugé au-delà des obligations de l'Iran. L'organisation iranienne a déclaré mercredi 8 juin dans un communiqué le retrait des caméras de surveillance du compteur d'enrichissement en ligne, OLEM, et du débitmètre de l'agence. La République islamique d'Iran a jusqu'à présent mené une coopération étendue avec l'AIEA, mais n'ayant malheureusement pas pris en compte une telle coopération qui découle de la bonne volonté de l'Iran, l'agence ne l'a pas appréciée et l'a plutôt considérée comme un devoir, indique le communiqué. Il a ajouté qu'en conséquence, l'Iran a décidé que le fonctionnement des caméras de surveillance d'enrichissement en ligne et du débitmètre de l'AIEA devrait être arrêté à partir d'aujourd'hui. Les autorités concernées ont reçu l'instruction. Bien sûr, plus de 80% des caméras en place de l'AIEA continueront de fonctionner dans le cadre de l'accord, indique le communiqué. Selon le communiqué, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, s'est présenté aujourd'hui sur un site nucléaire afin de superviser le retrait des caméras. Le lundi 6 juin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré dans un tweet s'il est parti à l'origine de la résolution anti-iranienne à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Continue d'adopter une approche fondée sur la menace, c'est elles qui seront à blâmer pour les conséquences de cette approche. Dans ce droit fil, un site web israélien réaffirme que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, prend au sérieux les capacités de renseignement d'Israël en ce qui concerne les activités nucléaires de l'Iran. Dans un article publié mercredi 8 juin par Israel Today, Yoshanan Visser, analyste israélien, a évoqué les positions de Naftali Bennett envers l'Iran et les a qualifiées de différentes par rapport à celles de Benjamin Netanyahou. Bennett est à l'origine d'un changement mineur dans l'approche d'Israël vis-à-vis de l'Iran.
En effet, les négociations pour relancer l'accord de 2015 avaient été reprises entre l'Iran et les parties signataires, mais avaient été suspendues en mars dernier alors qu'une entente était à portée de main. Qu'en sera-t-il alors des négociations nucléaires après cette résolution anti-iranienne ? On en débat avec nos deux invités, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Pierre Dortiguet, politologue depuis Toulouse. Monsieur Michel, je commence avec vous, je vous dis bonjour. Alors dites-nous, quelles seront les conséquences de cette résolution anti-iranienne basée sur des informations et sur un rapport hâtif, bien sûr, et déséquilibré et inexact du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Décidément, Grossi se fie beaucoup trop aux informations fournies par le renseignement israélien.
Bonjour à vous, le professeur Dortiguet. Vous savez que moi, j'ai fait beaucoup de débats sur ce sujet. Je suis sceptique depuis le premier jour sur la volonté réelle des Occidentaux de revenir aux accords de Genève. Les prétextes avancés par Donald Trump pour quitter ceux-ci, c'est-à-dire la dénonciation pour l'Iran de renégocier son secteur balistique et sa politique de la résistance, ont toujours été soutenus et approuvé par Londres, Paris et Berlin. Depuis le début de cette année, Biden a la réputation de quelqu'un qui est favorable aux accords de Genève, mais on constate que dans tous les grands dossiers de géopolitique internationale, que ce soit l'Iran, l'Europe centrale, la Russie ou encore Taïwan, on constate que Biden marche dans les pas géopolitiques de Trump. Je crois donc que les conséquences, tout simplement, ça va être un abandon définitif des négociations de Genève. Les Occidentaux se sont donné le bon rôle puisqu'ils prétendent dans leur politique systématique de mensonge, ils prétendent que les Iraniens sont fautifs, que ce sont eux qui ne respecteraient pas, je les cite, leurs obligations internationales, alors que c'est les États-Unis qui ont retiré leur signature et ils prétendent toujours, ce qui est de la pure propagande israélienne, que l'Iran voudrait acquérir la bombe atomique. Il faut d'ailleurs voir d'ailleurs la jubilation de la presse israélienne, de Bennett et compagnie, qui constate que les nouvelles démarches de la DIEA qui vont dans le sens des Occidentaux sont considérées comme une victoire par les Israéliens. C'est tout ceci qu'il faut retenir de l'affaire. Comme on dit, ce n'est pas une affaire qui sent très bon.
Je m'adresse à notre deuxième invité, Pierre Dortiguet, depuis Toulouse. Bonjour Pierre Dortiguet, et dites-nous. Alors, dans le cadre du PGAC, l'Iran avait accepté, bien sûr, d'imposer un certain plafond à ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions américaines. Mais les États-Unis se sont retirés unilatéralement en 2018 de cet accord. Comment pourrait-on interpréter cette mauvaise foi du clan occidental face à l'Iran?
On peut l'interpréter comme étant une crainte quant aux apparences. Crainte, je veux dire, que suscite pour l'Occident ce qu'on peut dire le poids de la propagande israélienne ou son influence en Europe et bien sûr aux États-Unis. Je crois que l'Occident, si je puis dire, avance quand même, mais à reculons. J'observe que l'AIEA a quand même, disons, malgré le les réticences, les observations tout à fait justifiées iraniennes, a demandé à ce que l'on poursuive le dialogue, ne veut pas interrompre le dialogue. Et je crois que dans cette affaire-là, ce n'est pas simplement l'Iran qui est soumis à des pressions, c'est l'Occident lui-même qui est soumis à des pressions. Et effectivement, les Israéliens ont raison, bien sûr, de fêter, de jubiler, si je puis dire, après cette décision. Mais je crois qu'il y a autre, quand même, un chemin nécessaire, car le dossier contre l'Iran ne repose sur rien. Donc avec du rien, vous ne pouvez quand même pas bâtir une politique, et surtout guider des intérêts. L'Occident, bien sûr, est engagé, comme on le sait, dans la politique que l'on voit aujourd'hui, enfin, sur tous les fronts en Asie, en Afrique et en Europe centrale. Mais il y a quand même des intérêts, je ne dis pas économiques, mais des intérêts de stabilité, des intérêts qui sont... L'Occident ne peut pas se permettre quand même d'aller vers un suicide sous prétexte de complaire à des aventuriers. Bien sûr que, aventuriers, je veux dire israéliens, je pense qu'il ne faut pas, disons, désespérer de ces négociations. Monsieur Michel, notre ami Michel, a dit que, bien sûr, l'Occident suivait la voie de Trump. Oui, en effet. Mais je crois que beaucoup regrettent justement la décision de Trump. Et il n'est pas sûr que le réalisme de Biden ne l'emporte pas, justement, sur un délire, disons, vraiment pitoyable, disons, de l'ancien président.
Merci pour vos explications. Alors, Luc Michel, bien sûr, selon vous, et selon beaucoup d'analystes d'ailleurs, l'Occident suit les pas de Trump et des États-Unis. Mais jusqu'où l'Union européenne, les pays occidentaux continueront-ils cet aventurisme pro-USA, Monsieur Michel?
Écoutez, les USA sont dans une poussée de militarisme et de confrontation mondiale. Dans tous les grands dossiers mondiaux, ils cherchent systématiquement la confrontation. Confrontation avec la Russie à propos de l'Ukraine, mais qui est une confrontation globale avec l'OTAN. Confrontation avec la Chine à Taïwan, où Biden, reprenant la politique de Trump d'ailleurs, là aussi, jette littéralement de l'huile sur le feu. Confrontation au Proche-Orient. Vous savez que par rapport à l'Iran, les Israéliens sont qui anticipent un refus du renouvellement des accords de Vienne, sont en train de faire des manœuvres dans lesquelles ils répètent des frappes de haute intensité avec l'appui des Américains contre l'Iran. C'est réellement une volonté de guerre. Je ne crois plus au pacifisme de Biden et je ne crois pas une volonté de revenir à des règles de diplomatie internationale et de négociation. Biden, dans la ligne de Trump, il recherche libéralement la confrontation et la guerre un peu partout.
Mmh. Pierre d'Ortiguet, il y a quelques jours, en réponse à une question sur le pacte AUKUS, donc ce pacte de sécurité tripartite signé entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait relevé un point assez important. Selon lui, ce pacte, en fait, pourrait faciliter ou augmenter le risque de prolifération nucléaire, puisqu'il y a les États-Unis d'un côté, le Royaume-Uni d'un autre, mais aussi l'Australie, qui a aussi un passé assez négatif en matière de prolifération. Quelle est votre analyse sur cette contradiction?
Eh bien, oui. En fait, il ne s'agit pas de contradiction, disons, pour nous, mais pour eux, il s'agit d'un problème de grande puissance. C'est-à-dire que la définition même dans le monde moderne, au XXe siècle, au XXIe siècle, de la grande puissance, c'est qu'elle impose des règles, mais, disons, les impose en faisant appel à la morale, disons, contraire. C'est-à-dire que quand ça sert ses intérêts, elle agit, et quand ça sert ses intérêts, elle fait appel pour déconsidérer l'adversaire à des règles morales. Vous voyez, bon, je crois que ça, c'est une contradiction qui est inhérente à notre civilisation depuis, je dis, au XXe, XXIe siècle. Avant aussi, mais c'est très marqué. Je pense que ce genre de politique aboutira à une confrontation malheureuse, je veux dire horrible, ce qu'on appelle une guerre mondiale, bien sûr. On ne peut pas le répéter, mais enfin, chacun l'a en tête. Ça finira très mal. Et le propre des peuples est justement de se mettre à l'abri de cette confrontation qui est portée par une logique. Ce n'est pas une décision arbitraire des dirigeants. Ils sont entraînés par leur propre mouvement, par leur aveuglement, si vous voulez. Voilà. Et je crois que l'Iran doit tenir compte de ce fait, voyez-vous, et ne pas se considérer ces aléas, c'est-à-dire ces hasards, voyez-vous, de négociations, de rupture, de suspension, etc., comme des choses, comme des accidents, comme des irrationalités. C'est vraiment dans la nature même de la lourdeur de ces nations que l'on voit, qui sont enrichies de façon plus ou moins honnête ou équilibrée, disons, et qui sont entraînées elles-mêmes, je dirais, par le poids de leur puissance. C'est ça qui est véritablement la caractéristique, à mon avis, déjà du XXe siècle, qui a vu la guerre de 14, et aujourd'hui, nous sommes évidemment dans le prolongement, et si je puis dire malheureusement, la conclusion, peut-être dans quelques années, de ce vaste mouvement, qui est une destruction même de la civilisation.
Mmh. Luc Michel, un mot à dire au sujet de l'AUKUS, ce pacte de sécurité tripartite signé entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ?
C'est-à-dire que jusqu'ici, la stratégie des grandes puissances, notamment la Russie et la Chine, c'était d'empêcher la dissémination atomique pour garantir justement la stabilité mondiale. Depuis quelques mois, les États-Unis semblent avoir changé de tactique et encourageraient au contraire la dissémination nucléaire pour contrer la Russie et la Chine. On sait qu'une des choses qui a fait intervenir Poutine en Ukraine, c'était l'installation par les États-Unis de laboratoires nucléaires clandestins en Ukraine. La Russie, Moscou, accusant l'Ukraine de vouloir se doter clandestinement de la bombe atomique. Il y a quelques jours, j'ai lu un rapport américain qui conseillait que le meilleur moyen de garantir définitivement l'indépendance de Taïwan par rapport à la Chine, c'était de doter Taïwan de l'arme atomique. C'est ce qui se passe un peu partout. C'est évidemment une politique dangereuse. La technique des États-Unis, c'est de disséminer mondialement l'OTAN. L'OTAN de départ, c'est l'OTAN d'Europe occidentale et méditerranée. Elle est maintenant doublée des deux autres OTAN, l'OTAN du Proche-Orient et l'OTAN du Pacifique, qui est centrée sur l'AUKUS. Il semblerait que les États-Unis envisagerait très bien de surarmer toutes les puissances autour duquel il compte structurer ses OTAN, notamment l'OTAN centrale du Proche-Orient étant Israël, et Israël ne peut pas avoir sa supériorité nucléaire stratégique rompue par l'Iran, et bien entendu, on prévoit, semble-t-il, le Japon, l'Australie et Taïwan comme puissance nucléaire, ils ont la possibilité, puisque ce sont trois puissances nucléaires civiles et que l'Australie a réellement des capacités d'accéder rapidement à la bombe atomique. Tout cela nous annonce des décennies d'instabilité qui correspondent assez d'ailleurs aux tentations de la géopolitique américaine au XXIe siècle.
Monsieur Tartiguet, comment se fait-il que l'Agence internationale de l'énergie atomique et notamment donc les pays européens se fient très facilement aux informations liées aux renseignements israéliens, alors qu'on sait que le renseignement israélien est rempli de failles? Comment se fait-il que l'Agence se fie sur des rapports hâtifs, déséquilibrés, fausses et mensongères fournis en une partie, une grande partie bien sûr, du régime sioniste?
Israélien, c'est non pas ses capacités, bien sûr, à savoir son efficacité, enfin, sa vérité. Non, il ne s'agit pas de tout cela pour les pays occidentaux, mais simplement d'une menace. Parce que les pays occidentaux ont chez eux-mêmes des conséquences financières, justement, d'un. d'une attaque d'Israël, d'une attaque contre Israël, d'une méfiance contre Israël. Vous savez que l'entité sioniste est beaucoup plus présente en Europe, comme on le dit, dans les institutions et autres, aux États-Unis aussi. On pourrait dire même que, quand on parle de la colonisation en Palestine, cette Palestine, elle est très vaste. Voyez-vous, elle comprend même l'Allemagne, elle comprend les États-Unis. En fait, il s'agit toujours, comment vous dire, de situations truquées. Voyez-vous, l'entité sioniste se présente comme un État faible, alors qu'en réalité, son but n'est pas d'être enraciné quelque part. Son but est d'apparaître comme une victime permanente, qui en réalité est un chef d'orchestre du désordre international.
Merci pour vos explications. Luc Michel, l'Iran a annoncé avoir pris des mesures de représailles, dont l'installation de centrifugeuses avancées, mais aussi le fait que des caméras de surveillance de l'agence ont été éteintes dans des sites iraniens. Comment interprétez-vous cette situation? Jusqu'où ces tensions pourront monter entre l'Iran et la partie européenne?
L'Iran, c'est mon point de vue, s'est fait rouler dans les accords de Genève. Il a pris une série de mesures pour finalement se retrouver avec des sanctions maintenues. Dès lors, l'Iran ne peut plus perdre la face et nous sommes dans une période maintenant de confrontation entre le bloc occidental et le bloc de l'Est, où à la fois la Russie et l'Iran sont obligés de montrer leurs muscles et de montrer qu'ils tracent des lignes rouges, qu'ils n'accepteront plus d'être franchis. Mais les faits que les caméras ont été éteintes, c'est présenté notamment dans la presse israélienne comme un succès pour les Israéliens, puisqu'ils disent que ça conduit directement à un échec définitif des accords de Genève. On pousse donc l'Iran à la faute.
Pierre Dortiguet, peut-être la dernière question. À votre avis, est-ce que la diplomatie répond-elle dans cette affaire entre l'Iran et la partie occidentale?
Je pense que la diplomatie a un rôle à jouer, qu'elle jouera ce rôle, car il y a à côté des considérations de force et de puissance, il y a quand même aussi la nécessité de la raison et de la logique. Et sans raison et logique, notre monde est technique en fonction. N'emportera bien sûr sur les fameux fanatiques du désordre organisé.
Je pense qu'il y a eu une panne de connexion avec Pierre Dortiguet, donc le dernier mot avec Luc Michel. Monsieur Michel, on vous écoute.
Oui, il faut souligner que dans toute cette affaire, ce qui est en train d'être démontré, c'est l'extrême mauvais choix des Occidentaux.
Oui.
C'est la même chose dans d'autres dossiers. Le dossier de la pénurie alimentaire mondiale, par exemple, ou le dossier des sanctions contre la Russie, etc. La même chose se passe en Afrique. L'Occident, c'est l'empire de la mauvaise foi et du mensonge. Ce sont des puissances qui font la morale au monde, qui donnent des leçons, mais qui, en réalité, leur signature ne vaut pas plus que le poids du papier sur lequel elles sont apposées. Les États-Unis ne respectent pas leurs obligations internationales et les Occidentaux systématiquement, on le voit maintenant, dans le cas de l'Iran avec la renégociation de Genève, les Occidentaux n'hésitent pas à manipuler leurs paroles et à manipuler la réalité. Sur la Terre, on sait maintenant qu'on ne peut plus faire confiance à l'Occident. C'est particulièrement vrai en Afrique.
Merci à vous, Luc Michel, géopoliticien, et Pierre Dortiguet, politologue, était avec nous pour ce débat. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. En vous souhaitant une très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
La révolution financière mondiale à venir, suite. Aucun pays n'a réussi à défier l'hégémonie mondiale du dollar américain jusqu'à présent. Comment cela est-il arrivé et qu'est-ce que cela signifie? une page du manuel du système américain. La Russie suit les États-Unis, non seulement en liant sa monnaie nationale aux ventes d'un produit de base essentielle, mais aussi en suivant un protocole antérieur, ce que les dirigeants américains du 19e siècle appelaient le système américain de monnaie et de crédit souverain. Ces trois piliers étaient des subventions fédérales pour les améliorations internes et pour soutenir les industries naissantes de la nation, des tarifs douaniers pour protéger ces industries et un crédit facile émis par une banque nationale. Michael Hudson, professeur d'économie et auteur de « Super-impérialisme », la stratégie économique de l'Empire américain, parmi de nombreux autres ouvrages, note que les sanctions obligent la Russie à faire ce qu'elle a été réticente à faire elle-même, réduire sa dépendance à l'égard des importations et développer ses propres industries et infrastructures. L'effet, dit-il, est équivalent à celui des tarifs douaniers protecteurs. Dans un article intitulé « L'Empire américain s'autodétruit », Hudson écrit au sujet des sanctions russes, qui remontent en fait à 2014. La Russie était restée trop captivée par l'idéologie du marché libre pour prendre des mesures visant à protéger sa propre agriculture ou son industrie. Les États-Unis ont apporté l'aide nécessaire en imposant à la Russie une autonomie intérieure via les sanctions. Lorsque les États baltes ont perdu le marché russe du fromage et d'autres produits agricoles, la Russie a rapidement créé son propre secteur fromager et laitier, tout en devenant le premier exportateur mondial de céréales. La Russie découvre, ou est sur le point de découvrir, qu'elle n'a pas besoin de dollars américains pour garantir le taux de change du rouble. Sa banque centrale peut créer les roubles nécessaires pour payer les salaires nationaux et financer la formation de capital. Les confiscations américaines pourraient donc finalement amener la Russie à mettre fin à la philosophie monétaire néolibérale, comme le préconise depuis longtemps Sergueï Glazyev, en faveur de la MMT, la théorie monétaire moderne. Ce que les pays étrangers n'ont pas fait de même, remplacer le FMI, la Banque mondiale et les autres bras de la diplomatie américaine, les politiciens américains les obligent à le faire. Au lieu que les pays d'Europe, du Proche-Orient et du Sud se préparent en fonction de leurs propres calculs de leurs intérêts économiques à long terme, les États-Unis les poussent à s'éloigner comme elle a fait avec la Russie et la Chine. Sergueï Glazyev est un ancien conseiller du président Vladimir Poutine et le ministre de l'intégration et de la macroéconomie de la Commission européenne eurasiatique, l'organe de réglementation de l'Union économique eurasiatique. Il a proposé d'utiliser des outils similaires à ceux du système américain, notamment en transformant la Banque centrale de Russie en une banque nationale émettant la propre monnaie de la Russie et des crédits pour le développement interne. Le 25 février, Glazyev a publié une analyse des sanctions américaines intitulée « Sanctions et souveraineté », dans laquelle il déclare « Les dommages causés par les sanctions financières américaines sont inextricablement liés à la politique monétaire de la Banque de Russie. Son essence se résume à lier étroitement l'émission du rouble aux recettes d'exportation et le taux de change du rouble au dollar. En fait, une pénurie artificielle d'argent est créée dans l'économie et la politique stricte de la Banque centrale entraîne une augmentation du coût des prêts, ce qui tue l'activité commerciale et entrave le développement des infrastructures dans le pays. Glazyev a déclaré que si la banque centrale remplaçait les prêts retirés par ses partenaires occidentaux par ses propres prêts, la capacité de crédit russe augmenterait considérablement, ce qui empêcherait une baisse de l'activité économique sans créer d'inflation. La Russie a accepté de vendre du pétrole à l'Inde dans sa propre monnaie souveraine, la roupie, à la Chine en yuan et à la Turquie en lira. Ces monnaies nationales peuvent ensuite être dépensées pour acheter les biens et services vendus par ces pays. On pourrait soutenir que chaque pays devrait être en mesure de commercer sur les marchés mondiaux dans sa propre monnaie souveraine. C'est ce qu'est une monnaie fiduciaire, un moyen d'échange soutenu par l'accord de la population de l'accepter comme valeur pour ses biens et services, soutenu par la pleine foi et le crédit de la nation. Mais ce type de système de troc mondial s'effondrerait, tout comme les systèmes de troc locaux, si l'une des parties à l'échange ne voulait pas des biens ou des services de l'autre partie. Dans ce cas, une monnaie de réserve intermédiaire serait nécessaire pour servir de moyen d'échange. Glazyev et ses homologues y travaillent. Nous travaillons actuellement sur un projet d'accord international sur l'introduction d'une nouvelle monnaie de règlement mondial, arrimée aux monnaies nationales des pays participants et aux biens échangés qui déterminent les valeurs réelles. Nous n'aurons plus besoin des banques américaines et européennes. Un nouveau système de paiement basé sur des technologies numériques modernes avec une blockchain se développe dans le monde où les banques perdent leur importance. La Russie et la Chine ont toutes deux développé des alternatives au système de messagerie SWIFT dont certaines banques russes ont été bloquées. Le commentateur Alexandre Mercory, basé à Londres, fait l'observation intéressante que sortir de SWIFT signifie que les banques occidentales ne peuvent pas suivre les transactions russes et chinoises. Le vendredi 11 mars, après une réunion par vidéoconférence, l'Union économique eurasiatique et la Chine ont convenu de concevoir le mécanisme d'un système monétaire et financier international indépendant. Elle établit des accords de libre-échange avec d'autres nations eurasiatiques et s'interconnecte progressivement avec l'initiative Ceinture et Route chinoise. À toute fin utile, l'idée vient de Sergueï Glazyev, le principal économiste indépendant de Russie. De manière assez diplomatique, Glazyev a attribué la concrétisation de l'idée aux défis et risques communs associés au ralentissement économique mondial et aux mesures restrictives à l'encontre des États de l'Union eurasiatique et de la Chine. Traduction. La Chine étant une puissance eurasiatique au même titre que la Russie, elles doivent coordonner leur stratégie pour contourner le système unipolaire américain. Le système eurasiatique sera basé sur une nouvelle monnaie internationale, très probablement avec le yuan comme référence, calculée comme un indice des monnaies nationales des pays participants ainsi que des prix des matières premières. Le système eurasiatique est appelé à devenir une alternative sérieuse au dollar américain, car l'Union économique eurasiatique pourrait attirer non seulement les nations qui ont rejoint la BRI, mais aussi les principaux acteurs de l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que l'ASEAN. Les acteurs d'Asie occidentale, Iran, Irak, Syrie, Liban, seront inévitablement intéressés. Si ce système réussit, quel sera l'effet sur l'économie américaine? Le stratège en investissement, Lynn Alden, écrit dans une analyse détaillée intitulée « La rupture du système de réserve monétaire mondiale des États-Unis » qu'il y aura une douleur à court terme, mais qu'à long terme, l'économie américaine en bénéficiera. Le sujet est complexe, mais l'essentiel est que la domination de la monnaie de réserve a entraîné la destruction de notre base manufacturière et l'accumulation d'une dette fédérale massive. Le partage de la charge de la monnaie de réserve aurait l'effet que les sanctions ont sur l'économie russe, en soutenant les industries nationales comme le ferait une taxe douanière, ce qui permettrait de reconstruire la base manufacturière américaine. D'autres commentateurs affirment également qu'être la seule monnaie de réserve mondiale est moins un privilège exorbitant qu'un fardeau exorbitant. La perte de ce statut ne mettrait pas fin à l'importance du dollar américain, qui est trop fortement ancré dans la finance mondiale pour être délogé. Mais cela pourrait bien signifier la fin du pétrodollar en tant que seule monnaie de réserve mondiale et la fin des guerres pétrolières dévastatrices qu'il a financées pour maintenir sa domination. En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. varie céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran, appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Thank you.